RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le monde qui tente de se ressaisir après les droits de douane que Donald Trump a distribués hier à tous les pays, à toutes les régions de la planète. Mais c'est quand même l'Asie qui est la plus visée, nous dira Nicolas Rocca. De leur côté, l'Europe et la France se préparent à riposter. À Gaza, l'armée israélienne étend ses opérations pour forcer le Hamas à rendre les otages. Mais jusqu'à présent, les otages libérés ne l'ont été que grâce à la négociation, nous dira Sami Boukhalifa. Et puis en France, la conférence des évêques va avoir un nouveau président, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille qui a estimé ce jeudi que l'Église devait mieux faire sur la question des violences dans l'enseignement catholique.
RFI.
Les bourses dégringolent. En Europe, elles ferment à la baisse. Par exemple, Paris chute de 3,31%. À Wall Street, les principaux indices ont dévissé dès l'ouverture. Hier, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires à toute la planète, ou quasi. Plus 20% pour l'Europe, plus 24% pour le Japon, une Chine qui hérite d'un 34% qui s'ajoute aux 20% déjà en place. De fait, c'est l'Asie qui est particulièrement touchée, non seulement ces pays riches qu'on vient de citer, mais aussi les pays les plus pauvres du continent dont l'économie est ultra dépendante des exportations. Décryptage Nicolas Rocca.
La Birmanie, dévastée par la guerre civile, les sanctions américaines et un tremblement de terre meurtrier, désormais ciblé par des droits de douane à hauteur de 44%. Une annonce surtout symbolique, car le commerce avec les États-Unis reste limité, mais Donald Trump semble vouloir viser particulièrement les partenaires de la Chine, à l'image du Laos et du Cambodge, qui voient leurs droits de douane frôler la barre des 50%. Mais c'est le Vietnam qui est particulièrement touché, alors que ses exportations vers les États-Unis représentent près d'un tiers de son PIB. Hanoï a bien tenté d'adoucir la sentence en abaissant ses taxes douanières sur les importations de produits venus des États-Unis. Résultat, 46% de droits de douane pour un pays qui fabrique la moitié des chaussures de l'équipementier américain Nike. Le deuxième plus grand fabricant de vêtements au monde, le Bangladesh, a lui reçu un taux de 37%, un coup de massue selon les dirigeants de l'industrie textile du pays. Une sentence un peu moins élevée pour l'Indonésie avec un taux fixé à 32%, mais aux conséquences tout aussi désastreuses sur une économie en grande difficulté.
Nicolas Rocca, et tout le monde craint des conséquences lourdes pour l'économie mondiale. L'heure est au dialogue, insistent les principaux partenaires des États-Unis. Pékin dit maintenir la communication. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit qu'il n'est pas trop tard pour négocier, mais que l'Union européenne est prête à réagir. De fait, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a appelé ce jeudi à l'unité des Européens et il a aussi promis que l'Union européenne riposterait.
L'Union européenne répondra, elle le fera dans un premier temps dès la semaine prochaine, en réplique aux droits de douane qui ont déjà été appliqués il y a quelques semaines par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Et puis elle engagera, elle l'a déjà dit, des consultations pour prendre le cas échéant de nouvelles mesures à la suite des droits de douane réciproques qui ont été appliqués hier soir. Comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne, l'Europe dispose de tous les moyens pour protéger les Européens, leurs intérêts et leur prospérité. Nous avons développé ces dernières années des instruments puissants de défense commerciale pour le faire. Mais notre réponse ne sera à la hauteur que si elle est unitaire, si les Européens font preuve d'unité. C'est ainsi qu'ils pourront entrer en position de force dans les négociations lorsqu'elles s'ouvriront au bénéfice de la prospérité européenne.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, et le Canada annoncent ce soir qu'il impose des droits de douane de 25% sur certaines importations automobiles américaines. En Haïti, des milliers de manifestants étaient hier dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer la montée de l'insécurité. Insécurité est un terme bien faible face à la réalité de la violence des gangs armés qui intensifient leurs attaques contre plusieurs quartiers de la capitale, une capitale qu'ils contrôlent déjà en grande partie. Les manifestants ont dénoncé l'inaction du Conseil présidentiel de transition qui n'a pas réussi à rétablir la sécurité presque un an après sa mise en place. Et malgré le déploiement, il faut le dire très partiel, de la mission multinationale de sécurité dirigée par le Kenya. RFI, 22h04, à Gaza. Gaza où les secouristes de la défense civile annoncent ce soir la mort de 31 personnes dans une frappe israélienne ce jeudi qui a touché une école qui abritait des personnes déplacées. L'armée israélienne affirme de son côté avoir frappé un poste de commandement du Hamas. L'armée israélienne qui, à Gaza, étend ses opérations militaires. L'État hébreu a annoncé saisir de larges zones du territoire palestinien dévasté. En début de semaine, un haut responsable israélien affirmait que l'armée comptait occuper 25% de l'enclave pour forcer le Hamas à rendre les otages. On retrouve à Jérusalem Sami Boukhalifa. Samy, jusqu'à présent, cette stratégie de pression militaire n'a pas fait plier le Hamas. Et en fait, les otages libérés ne l'ont été que grâce à la négociation.
Mais cette voie du dialogue est rejetée catégoriquement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En début d'année, l'accord signé entre Israël et le Hamas débouche sur une période de cessez-le-feu de 2 mois à Gaza et la libération d'une 30aine d'otages israéliens. La deuxième phase de cet accord devait débuter en mars et suivre ce même schéma comme convenu initialement jusqu'à aboutir à la fin de la guerre. Au dernier moment, Benjamin Netanyahou a changé d'avis, optant pour un plan alternatif qui ne prévoit pas l'arrêt définitif des combats. Le Hamas l'a rejeté et Israël s'est lancé dans une escalade. Première étape, fermeture des points de passage vers Gaza et donc blocage de l'entrée de l'aide humanitaire, des marchandises et du fioul qui fait fonctionner les hôpitaux. Étape 2, c'était le 18 mars, Israël viole unilatéralement la trêve et lance des bombardements meurtriers. Depuis, le bilan dépasse les 1000 morts et l'armée israélienne a tué plus de 50 000 Gazaouis depuis le début de la guerre. Étape 3, accaparer les terres et morceler la bande de Gaza en plusieurs petites enclaves séparées les unes des autres. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou plaide pour la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Le président américain propose de déplacer les Gazaouis en Égypte et en Jordanie. Une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international.
Sami Boukhelifa. Israël frappe aussi la Syrie. 2 cibles militaires ont été touchées près de Damas, affirme ce soir l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce jeudi, l'envoyé spécial de l'ONU a condamné des attaques répétées et intensifiées d'Israël en Syrie, parlant d'une déstabilisation à un moment sensible. Le ministre israélien de la Défense, lui, a averti le président par intérim syrien Ahmad al-Sharet qu'il paierait un lourd tribut si la sécurité d'Israël était menacée. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou est en Hongrie pour 3 jours. Pourtant, le premier ministre israélien est la cible d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, dont la Hongrie est signataire. Enfin, pas pour longtemps, puisqu'à l'occasion de cette visite, le président Viktor Orban a annoncé que son pays claquait la porte de la CPI. Benjamin Netanyahou a félicité son hôte pour ce qu'il qualifie de position courageuse. En France, la conférence des évêques va avoir un nouveau président, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il a été choisi hier par ses pairs à Lourdes, il prendra ses fonctions le 1er juillet. Ce jeudi, Jean-Marc Aveline a estimé que l'Église devait mieux faire sur la question des violences dans l'enseignement catholique, remise au premier plan avec l'affaire de Notre-Dame de Bétarame. Mais ce n'est pas le seul sujet qu'il a abordé lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté Sophie Volatier-Godard.
Jean-Marc Aveline est arrivé tout sourire en conférence de presse.
Bonjour, très heureux de vous rencontrer pour cette première...
Un style qui change de la réserve de son prédécesseur, Éric de Moulin-Beaufort. On ne va pas s'arrêter là, a-t-il affirmé au sujet de la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Mais ce n'est pas sa seule mission. Jean-Marc Aveline veut aussi s'engager pour les personnes vulnérables. Il s'inscrit ainsi dans la lignée du pape François, dont il est proche.
La Bible le dit suffisamment souvent, la priorité c'est les plus pauvres. L'Église n'est pas la seule, mais elle ne serait pas à sa place si elle n'essayait pas d'apporter aussi sa contribution. C'est vrai pour les pauvres, c'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour toutes sortes de populations aujourd'hui en difficulté.
Autre objectif du nouveau président de la Conférence des évêques de France, renforcer le dialogue interreligieux, un thème qui lui est particulièrement cher.
Moi je reçois une fois par mois les imams à Marseille. À Marseille, il y avait une habitude de convivialité existentielle. Et ils me disent, les imams, ils me disent, bon, on n'arrive plus à se parler. J'ai reçu aussi les responsables juifs qui disent aussi on n'arrive plus à se parler. Je sais qu'il y a ce désir.
Jean-Marc Aveline souhaite enfin faire revenir les fidèles au sein de l'Église catholique.
En Birmanie, après le séisme qui a fait plus de 3000 morts, la junte birmane a annoncé un cessez-le-feu temporaire pour faciliter les secours. Cessez-le-feu dans son combat contre les groupes armés ethniques. Une initiative saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite que ce cessez-le-feu mène à un dialogue politique sérieux. En attendant, le chef de la junte birmane est aujourd'hui en Thaïlande pour un sommet régional et il doit discuter ce vendredi demain avec les dirigeants de 7 pays asiatiques de la réponse à apporter au séisme. Enfin, en Inde, la police a arrêté un touriste américain qui s'était introduit sur une île pour rencontrer une peuplade coupée du monde. Il est actuellement en garde à vue, ce touriste, et la police, qui affirme qu'il avait déjà essayé par 2 fois de se rendre sur l'île, recherche ses éventuels complices. Car personne, ni les Indiens, ni aucun étranger n'a le droit de s'approcher à moins de 5 km de cet endroit. L'objectif, c'est de préserver le mode de vie de la population, une centaine de personnes, et ne pas introduire de maladies. RFI, 22h10 à Paris.